le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
On est très nombreux en studio aujourd'hui, on est très contents. Donc on va parler des grands projets chers et inutiles, en ces temps où on nous dit, qu'on nous explique qu'il faut serrer les boulons de tous les côtés. Donc on reçoit Éléonore et Dawan de Dessine ta résistance, Gekos du soutien Notre-Dame-des-Landes et Daniel de la coordination des opposants au Lyon-Turin. Bonsoir, donc bienvenue.
Bonsoir.
On peut peut-être qui veut commencer, Daniel.
Bon, merci. La bibliothèque est la plus ancienne.
Nous, on est des citoyens vigilants. Vigilant, c'est bien parce que ça veut dire vigie, ça veut dire qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Citoyen, ça veut dire qu'on s'intéresse un peu à la vie sociale. Et vigilant, ça veut dire qu'on contrôle un petit peu ce qui se passe dans ces grands projets. Et c'est un petit peu ce qui guide notre action.
D'accord. Donc pour resituer, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les grands projets, le Lyon-Turin, ça dure depuis quand? C'est quoi le...
Alors le Lyon-Turin, c'est un projet qui est lancé dans les années 80, au moment où tout le monde veut absolument son TGV dans sa ville, parce que on a la plus belle ville de la France, de l'Europe, du monde, et donc il nous faut absolument un TGV qui vienne jusqu'à Chambéry. Surtout que notre maire, à Chambéry, il était aussi ministre des Transports.
Alors, donc ça peut aider.
Alors voilà, il dit, ben ouais, on en a besoin à nous. Voilà. Puis d'exigence en exigence, puis bon, Chambéry c'est grand, mais c'est pas le centre du monde non plus, donc on n'y arrive pas vraiment. Et puis intervient un dramatique accident sous le Mont-Blanc.
Le tunnel du Mont-Blanc, oui.
Et ça en 1999, donc deux éléments extrêmement importants. La première, bah, forcément, c'est dramatique, hein, plus de 30 morts sous le tunnel. Et puis en plus, c'est dramatique parce que tous les camions qui passaient au Mont-Blanc viennent circuler dans la Maurienne. Et ils viennent circuler non pas sur l'autoroute, parce qu'à l'époque, l'autoroute n'est pas encore mise en service. Ils circulent sur la route nationale, donc il y a 5000 camions par jour qui passent sur la nationale dans les villages de Maurienne, et ça, c'est insupportable. Et donc, bah, les promoteurs se sont dit, tiens, là, il y a un bon truc de com' à faire. Et donc, ils ont relancé le projet à partir de là, assez fortement. Bien que tous les services de l'État, pas que la Cour des comptes, mais tous les services de l'État, la Direction générale des finances, la Direction générale du Trésor, l'Inspection générale des finances, le Conseil national, le Conseil général des ponts et chaussées, tout le monde a dit, bon, là, il n'y a pas les trafics pour ça. Alors, ils ont fait plein de prévisions. Ça, c'est important dans les grands projets inutiles.
Il faut des chiffres.
Il faut des chiffres. Le chiffre est important. Et alors, plus le chiffre est important, plus ça fonctionne. Alors, on n'est jamais sûr de tout le monde, hein, dans les grands projets inutiles. Donc, on prend, en fait, ses propres sous-traitants pour faire les chiffres. Et si, tant qu'à faire, celui qui fait les chiffres, c'est aussi celui qui fait les tunnels, on est quand même plus sûr du résultat.
Et puis celui qu'on prend les hypothèses qu'on veut, on peut être optimiste, ouais.
Ouais, on peut être assez optimiste. Par exemple, là, en 2012, ils avaient prévu 7000 camions par jour. Il y en a 2700. Voilà, c'est moins quand même. Hein.
C'est nettement moins, mais ça ne remet pas en cause, du coup, toute la logique du projet, quoi.
Et 7000, c'est en hypothèse basse, parce qu'ils font hypothèse basse, hypothèse haute. Ah oui, alors là, en hypothèse basse, 7000 camions par jour, ça fait peur. Alors bon, voilà. Donc ils nous ont prévu. Puis alors, ils ont mis un modèle mathématique. Alors ça, le modèle mathématique, l'opposant ne peut pas s'y opposer, c'est un truc machin. Le modèle mathématique.
C'est imparable.
Et alors la Cour des comptes, par exemple, là, au mois d'août, elle écrit au Premier ministre, elle dit ils sont quand même bien gourés sur les comptes là. Ça fait 20 ans qu'ils se trompent. Alors le Premier ministre, il répond la prospective est un exercice difficile.
Certes.
C'est quelque chose qu'on trouve dans les autres grands projets. Là,
mais nous avons respecté les règles de l'art. Tout va bien. Donc, quand on respecte les règles de l'art, En fait, on peut se tromper sur les modèles mathématiques, mais les modèles mathématiques et les faits sont têtus. Et donc, tous les modèles mathématiques, depuis 20 ans, se sont trompés. Et donc, aujourd'hui, en 2012, on refait une enquête publique sur les accès français. Et là, et ben on reprend les mêmes modèles mathématiques, puisqu'on ne change pas une équipe qui perd. Hein, forcément, quand on veut faire le grand projet. Donc voilà, aujourd'hui, ils nous annoncent qu'il va y avoir 80 millions de tonnes qui vont passer dans cette infrastructure, alors que ça fait depuis 1994 que les trafics ont plafonné, puis à partir de 1998, ils ont diminué. Et maintenant, comme eux, ils sont très très forts, ils ont dit, eh ben ça va augmenter parce que nous, on l'a dit. Voilà. Donc grossièrement, ce projet, aujourd'hui, on a dans les Alpes environ un tonnage qui passe entre la France et l'Italie qui est inférieur à celui de 1988. Alors je dis ça toujours parce que c'est intéressant, parce qu'en fait on nous dit l'environnement, la Bible de l'environnement, c'est le Grenelle de l'environnement. Merci Monsieur Borloo. Eh oui, alors le Grenelle de l'environnement, c'est
le fret, hein.
Diminuer dans les transports routiers de 20% ou revenir au niveau de 1990. Alors nous, on est super forts, parce qu'on est déjà au niveau
c'est bien,
de 1990.
On a réussi à le faire sans rien dépenser, on pourrait s'arrêter là, quoi.
Ben, nous, ce qu'on dit surtout, c'est que... Alors, parce que les gens aussi, sur Lyon, là, on est surtout écoutés sur Lyon, ce qu'il faut vraiment dire aux gens, c'est qu'on ne dit pas qu'on est contre les camions sur le train. Nous, on dit qu'il y a une ligne existante. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une ligne qui passe déjà. Cette ligne, elle est utilisée à 17% de sa capacité, et si aujourd'hui on l'utilise, on passe la quasi-totalité des marchandises qui passent sur la route, sur le train.
C'est une ligne qui est dédiée qu'au fret ?
Non, c'est une ligne fret voyageur, mais il n'y a que 3 trains, il y a 4 trains par jour qui font la traversée, la traversée pour des voyageurs.
D'accord, donc il y aurait la place nettement pour plus, quoi.
C'est 20 minutes ? Non, c'est ça, en plus la différence de temps n'est pas énorme entre le TGV et la ligne classique.
Ça c'est pour, Chambéry. Effectivement, c'est entre 10 et 20 minutes de gain de temps, mais l'argument principal, c'est à chaque fois de dire... on va mettre les camions sur le train. Sauf qu'on va les mettre dans 20 ans, et pendant 20 ans, on va mettre encore plus de camions pour faire des trous, machin, etc. Mais surtout, c'est que la ligne actuelle
elle pourrait le permettre, déjà.
La deuxième chose qu'il faut dire à Lyon, c'est que tout le monde dit que c'est le Lyon-Turin. C'est le terme générique. En fait, c'est pas Lyon-Turin.
C'est Chambéry-Turin, c'est ça ?
Non, c'est Lyon-Saint-Exupéry-Turin.
Ah oui.
Il n'y a rien de prévu entre Saint-Exupéry et Lyon. Donc il y a plein de gens ici à Lyon qui pensent qu'ils vont faire leur shopping le samedi à Turin, super cool. Non, c'est pas ça. Vous allez d'abord prendre
le Rhône Express, mais il faut prendre
le Rhône Express qui est donné, c'est pas cher. Après, vous attendez. Vous prenez le temps de la connexion, parce que si vous ratez le train, vos shoppings, c'est mort. Enfin, vous êtes dans un système où, en fait, c'est pas Lyon-Turin, c'est Lyon-Saint-Exupéry-Turin, et rien n'est prévu pour l'instant dans le projet pour raccorder la ligne existante, mais de toute façon, la ligne existante aujourd'hui est saturée. Elle est saturée, on peut plus passer un train là à l'est de Lyon, en tous les cas, sur cette partie-là. Donc, en fait, c'est coincé. Donc, voilà, il faut vraiment dire aux gens. Et nous, on est tellement pour, vous savez quoi ? C'est que, pour l'instant, on demande l'interdiction des camions à vide dans les Alpes. Alors, ça a double avantage. Premièrement, ça pollue moins, comme on l'imagine. Parce que les camions, c'est pas fait pour se promener. Donc, s'ils sont à vide, ils sont pas pressés de livrer, vous voyez. Ben, ouais. Et en plus de ça, comme ils sont à vide, ils ont plus le droit de rouler dans les Alpes, hop, ils passent par le train. Donc, nous, vous voyez, on pousse pour que... Eh ben, bizarrement, personne veut reprendre notre proposition de loi sur l'interdiction des camions à vide. Tous les écologistes du Lyon-Turin, enfin pas les écologistes parce qu'ils sont contre, mais tous les environnementalistes un petit peu opportunistes, là ils oublient d'être contre les camions à vide. Ça ferait quand même entre 200 et 300 000 camions de moins.
Oui, mais ça demanderait une certaine logique. Enfin, moi, pour avoir été prise en stop dans ces coins-là, dans ma prime jeunesse, par des camions, il y a énormément de camions, par exemple pour des billes en polystyrène, je sais que ça se fait bien, qui vont aller jusqu'en Italie pour se faire mettre en sachet là-bas et revenir en France, puisque le made in Italy sur les billes, je crois que c'est du polystyrène ou quelque chose comme ça, est mieux vu et vendu plus cher. Donc il y a actuellement encore des camions qui font des allers-retours avec les mêmes marchandises. Enfin, ça demanderait une logique très globale qui pour l'instant n'est pas vue, je pense, effectivement, parce qu'il y a le tunnel du Mont-Blanc même qui est en train d'être agrandi, je crois, si je dis pas de bêtises.
Alors c'est pas le tunnel du Mont-Blanc, ça c'est le tunnel du Fréjus.
Ils font une deuxième voie qui pourrait servir de deuxième voie complète, mais ils la font légèrement trop petite, ce qui fait qu'elle servira qu'aux pompiers.
Ah, non, c'est pas ça, justement. C'est... Non, là je dois.
Excuse-moi. Ramène-nous, au contraire.
En fait, ils ont fait une enquête publique en disant ça ne sera qu'une galerie de sécurité pour les véhicules de pompiers. Normalement, la galerie, c'est 5,40 m pour les véhicules de pompiers, ça suffit pour faire l'aller-retour, tu vois. Et puis, finalement, ils ont dit, finalement, on va la creuser à 8,40 m. 8,40 m, c'est 20 cm de plus que le tunnel du Mont-Blanc qui, lui, fait double sens de circulation. Alors, les gens, ils ont dit en Valais, vous vous moquez de nous. 8,40 m, vous allez l'ouvrir à la circulation, ce truc-là. Plus de 4 mètres de haut, c'est pour passer des camions. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous prouve ça? Oui, alors, ils ont fait l'enquête d'utilité publique, déclaration d'utilité publique. Et que se passe-t-il à la sortie? Eh bien, finalement, le 3 décembre, là, vous vous souvenez, le 3 décembre, il y a un sommet franco-italien avec M. Hollande, M. Monti, qui était là et qui il y avait 3500 policiers autour de la place des Brotteaux, de grandes barrières, on ne pouvait pas sortir. Et donc, les seules choses qu'ils ont signées, en fait, ils n'ont pas signé du tout d'accord sur le Lyon-Turin, ils ont signé une déclaration commune sur le Lyon-Turin. Par contre, ils ont signé l'ouverture à la circulation de ce deuxième tube de
Fréjus.
Voilà, et ça a été signé le 3 décembre. Le 3 décembre, la seule vraie décision, enfin, il y a eu deux vraies décisions qui ont été prises à ce sommet franco-italien. La première, c'est ouverture à la circulation du deuxième tube de circulation qui, soi-disant, n'était qu'un tube de sécurité. La deuxième, c'est ils avaient prévu une augmentation des péages de 3,50% par an, tous les ans, pour qu'il y ait moins de camions sur la route. Et bien, la deuxième décision qui a été faite pour faire de l'environnement, forcément, sans doute, avec M. Monti, Maurice Hollande, ils ont décidé, non, 3,50, ça va être trop, on va mettre à 2,40. Donc, si vous voyez, voilà, les deux décisions, là, du sommet franco-italien, qui soi-disant a été le sommet super mondial de l'environnement, qu'on allait tout faire bien pour l'environnement pour qu'il y ait moins des camions dans les Alpes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, ils ont ouvert la circulation, le deuxième tube du Fréjus. C'est une escroquerie au jugement, cette histoire-là. Hein, parce qu'il y a eu un appel sur cette enquête publique. Les associations sont allées dire « mais vous êtes en train de mentir ». Non, pas du tout, on ne ment pas, ça ne va pas être ouvert à la circulation. Et le 3 décembre, paf, hop, Monsieur Cuvillier signe l'ouverture à la circulation et il signe la baisse de l'augmentation des taxes pour les camions dans les Alpes. Alors après, on vient nous dire, il nous faut le Lyon-Turin. Eh bien non, le Lyon-Turin, on n'en a pas besoin parce qu'on l'a déjà, c'est une ligne existante. Elle a aujourd'hui une capacité qui est largement supérieure à ce qui est utilisé. Elle est utilisée à 17%. On peut reporter les marchandises d'environ 1 million de camions. Il y a en tout 1 258 000 camions. Et en 2013, il y a encore moins de camions qu'en 2012. Voilà.
Donc, il y en a pas, on a bien compris qu'il n'y en a pas l'utilité. Par contre, les travaux ont commencé déjà. Ils ont, côté italien. Donc, pour resituer, donc, on parlait tout à l'heure, enfin, entre nous, l'association, enfin, le mouvement Notav, ça, c'est plutôt côté italien.
Alors, le mouvement Notav, c'est un mouvement italien, effectivement. Notav, pourquoi? Parce que le projet a été appelé par les promoteurs eux-mêmes TAV, c'est-à-dire train à grande vitesse en italien. Et donc, par opposition, les opposants, ils ont dit, nous, on s'appelle Notav. Voilà. Alors, en France, il y a des groupes Notav qui se sont appelés Notav parce que dans l'idée d'un mouvement unique. Nous, on s'appelle... Enfin, il y a une coordination de l'ensemble des associations, collectifs, personnes, etc., qui s'appelle Coordination des opposants Lyon-Turin. D'ailleurs, il y a des gens qui sont des groupes Notav qui sont ensemble, on travaille ensemble. Et on travaille ensemble, bien évidemment, avec l'Italie. Alors, sur les travaux, pour aller rapidement là-dessus, en France, effectivement, il y a des descendries, c'est-à-dire des tuyaux pour descendre vers ce qui devrait être, au final, le grand tunnel, le plus grand du monde, etc. Donc ça, normalement, en fait, ça n'a pas été présenté comme des descendries, c'est comme pour la galerie de sécurité, ils ont présenté ça comme des galeries de reconnaissance. Vous voyez, on creuse pour savoir ce qu'on va trouver, hein. Alors maintenant, ils ont trouvé un moyen, parce que, en fait, l'Europe finance à 50% les reconnaissances et les études.
Ah oui, donc alors, mieux libellé comme ça, oui.
C'est voilà, ça c'est mieux. Alors donc là, il y en a 3 qui ont été créés en France, donc qui ont tari des sources, etc., bien évidemment, parce qu'on nous dit, non, il n'y a pas de désastres environnementaux, mais il y en a quand même un petit peu, même si nous, hein, dans le mouvement, c'est vraiment l'utilité publique, l'absence d'utilité publique, l'absence d'intérêt général. Et puis, en Italie, ils ont dit, on va creuser à Venaus. C'est une ville en Haute-Vallée de Suse. Puis là, ils sont arrivés en 2005 avec leur foreuse, et là, la population a dit, vous n'avez pas creusé. Donc il y a eu des affrontements violents, parce que la police est violente, et puis parce que les gens ne voulaient pas qu'on creuse chez eux, parce qu'en plus, personne n'avait été consulté sur rien. Et donc finalement, ça a été arrêté. Et ils ont décidé, postérieurement, d'aller creuser à Chiomonte, Et donc, ça s'appelle la Galerie de la Maddalena. J'y étais samedi, il y a 10 jours, avec les opposants italiens et les 200 députés et sénateurs des mouvements Notav qui sont élus ou bien au niveau du mouvement 5 étoiles ou bien au niveau du groupe gauche écologiste.
Donc, côté français et italien?
Alors, il y avait, là, c'était essentiellement des députés italiens. Ce qui était intéressant, c'est que d'habitude, les Notav, quand ils arrivent à côté du chantier de Chiomonte, ils sont reçus par la gendarmerie, les matraques et l'armée. Et là, on est rentré dans le chantier. C'est une révolution en Italie. C'est une révolution que les Notav soient à l'intérieur. Donc, il y a 30 mètres de galerie qui étaient creusés samedi en D'accord. 15 pour le côté italien. Ensuite de ça, il y a en France aujourd'hui une volonté de creuser 9 kilomètres de galerie horizontale qui est en fait le tunnel final. Il y a juste quelques petits problèmes, c'est que c'est présenté comme une galerie de reconnaissance alors que c'est en fait déclaré dans la presse partout comme un bout du tunnel. En Italie, l'ancien président, il y a 2 jours, M. Patrice Rollin, a déclaré dans toute la presse qu'il commençait le tunnel. Donc il faut savoir s'il commence le tunnel ou s'il fait des galeries de reconnaissance pour savoir comment fonctionne un tunnelier, vous voyez, dans la montagne. Alors, les Suisses ont creusé le même tunnel sur 57 kilomètres. Moi, j'ai un coup à leur proposer chez Lyon-Turin Ferroviaire, c'est téléphoner en Suisse, on paye la communication et vous leur demandez comment ça fonctionne un tunnelier en Suisse ou vous regardez au Fréjus parce que
ils vont vous dire qu'il est plus lent, ça coûte plus cher.
Mais c'est parce qu'il faudrait savoir s'il se coince pas le tunnelier. Alors, je sais, le téléphone, c'est pas très moderne. Enfin, voilà. Donc, messieurs de Lyon-Turin Ferroviaire, monsieur Duménil, vous venez d'être nommé. Alors tiens, je vais vous dire un truc, monsieur Duménil, puisque vous m'écoutez, j'en suis sûr. Monsieur Duménil, il y a un problème dans les comptes de Lyon-Turin Ferroviaire. D'ailleurs, avec l'association Anticor, avec l'association FLAR, qui est une association anti-mafia en Italie, nous avons écrit à la Cour des comptes, nous avons écrit à tous les ministres. Alors vous, monsieur Duménil, vous venez d'arriver là. Il y a 2 jours, vous arrivez de RFF, vous aviez 30 milliards de dettes. Maintenant, vous allez arriver chez LTF, il va y avoir aussi 30 milliards de dettes si vous faites ce truc. Alors oui, il faut s'arrêter tout de suite, parce que ça, c'est pas bon pour finir la carrière. Alors, monsieur Duménil, voilà, il y a un petit problème dans les comptes. Il y a 10 322 000 qui sont comptabilisés pour des travaux en cours sur la galerie de Venaus. Mais la galerie de Venaus, ça n'a jamais eu lieu. C'est écrit dans votre rapport financier de 2011. On a abandonné cette truc. Alors, comment on a fait pour passer 10 322 000 euros de la galerie de Venaus à la galerie de Chiomonte, qui est à 30 km? Parce que les montagnes ne se déplacent pas, comme on le sait. Les montagnes ne se rencontrent pas. Où sont passés ces 10 322 000? Et puis, en même temps, où sont passés les 7 500 000 d'avance et d'acompte sur des travaux en cours pendant plus de 6 ans dans vos comptes? On l'a écrit en toutes lettres. Il va falloir donner ses réponses. Ça fait 18 millions d'euros. C'est beaucoup de sous. Monsieur Duménil, vous êtes au courant de rien. Vous n'étiez que le représentant de l'actionnaire RFF dans Lyon-Turin Ferroviaire, mais il faudrait nous donner ses réponses.
OK. Eh bien, merci. On va continuer. Donc, il y a plein de gens en plus dans le studio. Ouais.
Joss.
Alors, je vais vous laisser vous présenter.
Je m'appelle Joss, j'habite sur Lyon depuis 7 ans. Voilà, ben voilà, par rapport à tout ce qui se passe, je suis très sensible à tout ce qui se passe aussi. Et à la fois, je suis aussi de l'association. Je suis de l'association. On m'a contacté avec. Avec Rébellion aussi, enfin toute la bande. Et je suis de l'association Kiss Smiling, prévention et réduction des risques. Voilà.
Ok. On va peut-être vous laisser attaquer, puisque vous nous avez dit qu'il y avait en plus des nouvelles assez récentes.
C'est ça. Et dans les nouvelles assez récentes, aujourd'hui, on a passé la journée en face des CRS, pas très loin de la Doua, parce qu'il y avait une université populaire depuis 2 mois et demi à peu près, qui avait ouvert ses portes et qui se voulait donc dans un logement réquisitionné qui était vide depuis 6 ans, qui appartient au Crous et dont la demande de démolition expire au mois de juillet. C'est-à-dire que depuis 6 ans, ils en veulent faire quelque chose, mais ils en font rien. Par contre, aujourd'hui, ils ont déployé énormément de forces de police pour chasser les personnes qui avaient entrepris d'ouvrir cette université populaire ou un lieu ouvert où le partage de savoir est une base de de vie. La vie collective y était vécue et des jardins permaculture étaient lancés. Beaucoup de choses y étaient lancées. Aujourd'hui, ça s'arrête. En tout cas, ça s'arrête sur ce lieu. Très certainement, ça, l'université populaire va délocaliser. Bientôt, on saura où. Et elle va pouvoir reprendre son planning de partage des connaissances. Et du coup, voilà, ça c'était pour mon actualité du jour, parce qu'on vient de passer avec le GIGN toute l'après-midi et tout. Fallait en parler parce que du coup, vraiment, la police a montré à quel point elle arrive à être violente et super efficace, quoi. Mm-hmm. S'il déployait autant de savoir-faire pour sauver la planète, ça serait bien. Enfin, aujourd'hui, ils défendent que les intérêts économiques. C'est dommage, ils pourraient défendre les humains.
Parce que du coup, sur place, il y avait des gens qui vivaient en permanence. Il y avait combien de personnes à peu près ?
Une vingtaine qui étaient en permanence dans cette université populaire. D'accord. Tout en alternance. Mais ça démarrait. Il y avait, c'est en deux mois et demi.
D'accord, ça fait que deux mois et demi.
C'est compliqué de tout mettre en place.
Il y a un but de faire un lieu d'habitation.
Pour rebondir sur le lieu, si on en parle entre autres, c'est que lié à Notre-Dame-des-Landes, un autre sujet inutile dont on parlera sûrement, le comité de Lyon, par exemple, a beaucoup participé là-bas et a pu utiliser ce lieu, grâce à ce lieu, donc
pour faire des réunions, ateliers, des présentations,
des débats. On a fait plusieurs projections là-bas. Ça a été salle de réunion. Il y a eu des ateliers de jardinage, de mise en application de ce qui pouvait se passer sur la ZAD, stockage de matériel pour aller à la ZAD, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est entre autres un lieu qui servait en local à s'occuper de sujets liés aux projets inutiles.
Okay.
Voilà. Tenez-vous au courant sur lyon-alternative.fr.
Voilà. Et du coup, dans l'actualité, pour Dessine ta résistance, le lieu qui est d'occupation des terres à Dessine sur le projet d'OL Land et du stade des Lumières.
Ouais. Donc voilà, donc un autre projet.
Un autre projet grand, cher et inutile. Un milliard d'euros, 150 hectares. Tout ça pour faire un stade de foot et ses accès. Franchement, là où c'est placé à Lyon, si on donnait à un groupe de gens un milliard et ses 150 hectares pour produire de l'alimentation en permaculture, pour nourrir...
Il y aurait de quoi faire des beaux projets intéressants.
Il y aurait de quoi faire des super projets humains autour de l'alimentation raisonnée pour offrir un avenir à nos enfants. Aujourd'hui, là, on est sur les travaux inutiles. Il faut prendre la réalité que il y a l'équivalent d'un département français qui disparaît au profit du béton et du goudron tous les 7 ans. Et ça, de manière exponentielle. C'est-à-dire que l'année prochaine, peut-être, je serai obligé de dire tous les 6 ans. Ou peut-être 5. Parce que on sait, ça va très vite. Et mais il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêts financiers et non humains. Rien n'est raisonné. C'est-à-dire que tout autant que le projet Notav, le projet du Stade des Lumières ne tient pas debout. Aujourd'hui, Gerland pourrait être. Aujourd'hui, Gerland n'arrive jamais à être rempli.
Ouais.
Il est jamais à saturation. Il donne des places, oui.
Il y a une chose qui est importante, je pense, sur le projet. Parlons du projet Welland, c'est que c'est un mélange privé-public. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que on construit un stade privé qui va servir pour des bénéfices privés et une utilisation privée, c'est-à-dire que quand même Olas, ça fait un bon moment qu'il y pense parce que Lyon a quand même c'est quand même eux qui gèrent Gerland et il a pas son mot à dire sur tout et c'est tout bête hein, mais si un jour les espaces verts, enfin ceux qui s'occupent de là-bas disent on annule un match, on annule un match. Le jour où il aura son stade privé, il pourra faire ce qu'il veut, il aura la toute puissance là-dessus. Et le souci c'est qu'il y a la moitié de l'argent qui est public, donc ça veut dire que les 500 000 euros entre 400 et 500 000
millions.
Euros millions d'euros
ouais.
pardon j'ai du mal avec les euros
ouais, avec les millions surtout, ah ouais, c'est
millions,
vrai.
Ça fait beaucoup trop. Donc, à peu près 500 millions d'euros vont être dépensés pour le stade. Alors, sachant qu'il y avait Vinci qui se portait, enfin, qui donnait de l'argent en départ, puis là, ils viennent de se retirer. Maintenant, ils veulent bien prêter de l'argent, mais ils vont plus en donner quand même.
Bientôt, on va leur en donner.
Oui, dans pas longtemps. Bon, de toute façon, ça finira comme ça. Et puis, il y a 400 à 500 000 euros, donc à peu près la même somme, qui est destinée effectivement pour les accès. Et donc, le stade en lui-même représente 50 hectares et tous les accès représentent 110 hectares.
Oui, parce que c'est un projet gigantesque, en fait. Il y a des restos, il y a des commerces, enfin, c'est fait pour...
Sur toute la partie stade, il y a ça. Et sur toute la partie accès, alors en plus, ils mettent dans le projet que 80% vont être dédiés à l'espace vert. Enfin, c'est quand même génial parce qu'en plus on va payer pour faire des espaces verts là où il y a des champs et des forêts actuellement. Ouais. Hein, ça c'est top. Et alors ce qui se passe quand on fait des espaces verts, les espaces verts coûtent très cher à l'entretien aux communes. Et c'est, là entre autres c'est Chassieux qui va devoir prendre l'entretien de tous ces espaces verts, 80% de 110 hectares, c'est énorme. Ce qui fait que c'est impossible. Chassieux l'a déjà dit, ils ne peuvent pas prendre en charge l'entretien d'une telle surface en espace vert. Donc ce qui est prévu a priori derrière, mais bon c'est toujours non non monsieur et puis au dernier moment on le verra, ça sera de passer effectivement en constructible, ce qui permet d'avoir exproprié des terrains à 1 euro le mètre carré, ouais, et de les revendre derrière à, je sais pas, à 300 euros le mètre carré, quelque chose comme ça. Peut-être même plus.
Juste pour dire une chose, nous alors on est très très embêtés parce que nous on ne parle qu'en milliards chez nous. Hein, dans le c'était pas des millions, pas des centaines, hein, que des milliards. Alors bon, ils se trompent, hein, il y a 10 ans de ça c'était 12 milliards, maintenant c'est 26 milliards au minimum. Actualisé parce que c'est des milliards de 2010, donc voilà, ouais, c'est toujours un petit peu.
Mais les économistes, ils parlent en trilliards.
Oui, oui.
Un milliard de Notre-Dame-des-Landes, ce que ça représente?
Oui, c'est 1,5 milliard. Ils annoncent 1,5 milliard sur Notre-Dame-des-Landes. Mais alors, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que quand on nous annonce un montant, quand on dit, alors nous, c'est extraordinaire parce que il n'y a pas, c'est plus l'histoire du partenariat public-privé. Mais jeudi dernier, il y avait à Lyon Université 2 des étudiants de master qui présentaient un projet sur, enfin qui présentaient leur travail de recherche sur Lyon-Turin. Alors donc ils avaient plein de documents qui venaient de la Transalpine, qui est subventionné d'ailleurs par le Conseil général, Conseil régional, je le dis à tout le monde, 200 000 euros à l'année, hein, 130 000 de subventions plus entre 60 et 70 000 de mise à disposition de moyens par le Conseil régional. Nous, on fait ça avec nos sous pour un petit peu s'opposer. Donc, lors de cette réunion, il y avait un gars de RFF, le directeur de la tarification des infrastructures de RFF, qui a dit, à une question qu'on lui a posée, mais clairement, si déjà le Lyon-Turin en exploitation arrive à payer les coûts d'entretien de la ligne, ça sera très beau. Donc, oui, il faut savoir que ce sera les 30 milliards de la contribution directe. Il faut savoir que ce sont les Français qui vont payer ça sur leurs impôts. Enfin, les Français, ou ceux qui payent des impôts, plus exactement. Clairement et très nettement, ils savent parfaitement qu'ils sont en train d'endetter, de surendetter, ce qui d'ailleurs dans certains cas, moi je suis pas contre le déficit public sur des transports en commun qui sont nécessaires. Le problème c'est que là il n'y a pas d'utilité publique et la grande chose commune là-dedans, c'est que ce sont des projets qui sont inutiles, imposés, et pour lesquels il n'y a aucune démonstration d'utilité publique, il n'y a que des allégations.
Et juste pour redonner, comme tu parlais tout à l'heure de Chassieux, là, qui n'a pas les moyens d'entretenir les espaces verts, parce que c'est vrai qu'on se perd entre les millions, les centaines de mille, les euros, etc. Le budget de la commune de Décines, c'est 28 millions d'euros par an. Et pour le stade, ils vont payer donc 1 million par an pour la vidéosurveillance et 2 millions 300 pour l'éclairage. Donc on voit que 10% du budget là-dessus, c'est juste hallucinant.
C'est la consommation,
quoi.
Ouais.
C'est hallucinant.
Oui, et c'est des prévisions.
Ouais, en plus, on sait bien que
les prévisions de ce que ça va coûter,
une fois que c'est fait, de toute façon,
on arrange toujours les chiffres pour que ça passe. Mais face à tous ces millions, parce qu'à un moment donné, on peut parler tellement de millions dans tous les sens, et ben nous, sur Décines, du coup, le 10 avril, on va fêter nos 1 an d'occupation.
D'accord. Donc voilà, si on peut revenir sur Décines, il se passe quoi en fait ?
On va faire le point déjà sur le chantier. Le chantier a commencé sur 50 hectares sur les parties du stade. Ils viennent de finir la tranche 1 des travaux, c'est-à-dire les terrassements. Donc on a un grand terrain de 50 hectares bien terrassé. Voilà. Et ils commencent à peine les accès. Donc pour l'instant, il reste 110 hectares de nature qui sont de l'argent public, qui n'a pas encore été dépensé, qu'il est temps de stopper. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous répondent « Oui, mais de toute façon, c'est déjà perdu puisqu'ils ont commencé à terrasser. » Alors moi, je réponds à ça. Vinci, il a 15 recours en justice qui sont encore en cours. Des recours en justice qui sont encore en train d'être... Enfin, il est en train d'être attaqué au niveau européen, etc. Et ils en profitent pour avancer. Ils ne se posent pas la question de savoir « Oui, mais on a les recours en justice et puis, mais vous comprenez. » Donc je pense qu'il y a un moment où si on a la même position et qu'on se dit mais c'est pas parce que vous avez terrassé 50 hectares que vous avez gagné, quoi. Reste 110 hectares, voilà.
Mais il faut prendre la réalité aussi que sur ce terrain, ils ont prévu de mettre tellement de béton qu'ils vont commencer par mettre une centrale à béton.
D'accord, ils commencent à construire la centrale à béton pour pouvoir
c'est
bien
ça,
bétonner.
C'est du bétonnage de grande ampleur. Nous, du 10 au 30, on a fait un appel au grand rassemblement. C'est-à-dire que depuis un an, bientôt le 10 avril, ça fait un an qu'on occupe, on y est nombreux et pas nombreux, la ZAD de Décines, parce qu'on parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais du coup la ZAD de Décines sort de son embryon, c'est-à-dire qu'elle a mûri pendant un an et maintenant il faut éclore, c'est-à-dire que elle doit de par ce rassemblement, on doit pouvoir réussir à être suffisamment en masse, suffisamment nombreux, enfin, je sais pas, ou alors tout le monde est d'accord pour ce stade, ou alors on se met tous ensemble et on arrête ce chantier parce que c'est facile. On n'est pas obligé d'être violent, on a juste besoin d'être en masse. Et comme le pouvoir électoral ou le pouvoir des suffrages ou je sais pas quoi n'a aucune valeur, la seule valeur qui puisse valoir le coup, c'est d'être dans la rue ensemble, enfin pas dans la rue, mais du coup pour l'occasion sur ce chantier.
Donc c'est du 10 au 30 ?
C'est du 10 au 30, sur le terrain qu'on a réquisitionné depuis un an. Le 30, on devient expulsable.
Voilà. D'accord.
Le 30 avril, on devient expulsable et à partir de là, vu les exemples qu'on a eus cet après-midi, peut-être ça durera pas très longtemps. Si on est toujours la quinzaine, vingtaine qu'on est maintenant, alors, c'est bien, on aura passé un an dans la nature à rêver de piétiner un peu le pied de Vinci. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, face à ce projet, soit on arrive à être tout un tas de David, tout un tas de grains de sable face à un seul Goliath et lui piétiner le pied, mais bien fort, quoi. Je veux dire, il y a 50 hectares, on peut faire un énorme dance floor et danser tout l'été sur leur terrain de jeu, reprendre l'espace de la vie. En fait, moi, ma liberté, elle commence et elle s'agrandit à chaque fois que toi, t'es un peu plus libre. Et sur ce sujet, ou que ça soit Notre-Dame-des-Landes ou Notav ou l'Université Populaire, à chaque fois qu'un de ces lieux tombe et que la sécurité intervient, alors la liberté est moins grande et du coup la liberté de chacun est moins grande. Et ne rien dire face à l'oppression de ce système est lourd de conséquences. À un moment donné, il faut se mettre en face de soi-même et si... pour tous les gens qui le sont déjà, vous sentez pas visé. Pour les autres, prenez un regain d'orgueil et venez danser avec nous. Il paraît qu'un peuple qui danse ne se fait pas arrêter. Essayons une danse contre un bulldozer. Alors du coup, le projet de ce rassemblement, il est du 10 au 30 et il est axé sur 3 week-ends. Le premier week-end, il est face à la permaculture. Et l'idée est de faire les jardins potagers sur un terrain qui sera... sur le tracé d'une route et qui va pouvoir peut-être de protéger un petit peu. D'accord. La dernière ferme de Décines où il y a des moutons avec Philippe Laïa et tout. C'est important de pouvoir tenir tête ensemble. Et,
Donc il faut venir avec des semis, des outils ?
Des semis, des outils, de ouais. La bonne volonté, des jerrycans d'eau. Et du coup, ça sera de la permaculture au terrorisme végétal. Parce que du coup, on peut faire des choses dans la désobéissance civile qui ne sont pas hors la loi. Et on peut poser des graines d'amarante et de rostrémière partout. On peut ouvrir les trottoirs et mettre des fleurs partout. On peut s'amuser à faire des choses.
Et la désobéissance d'occupation, dans ce cas-là, elle peut être justifiée, puisque, comme vous le disiez, il y a donc Étienne Tête, l'avocat de Carton Rouge, qui défend les opposants au stade, là, qui disait que donc si ça passe à l'Europe et que l'Europe déclare donc ce projet inégal dans son fonctionnement, l'utilisation d'argent pour ce projet, donc en fait, il suffirait de repousser de quelques temps le temps que les recours avancent et que l'Europe prenne l'affaire. Donc l'occupation là est légitime.
C'est ça.
Il y a une deuxième raison aussi, c'est qu'il doit être utilisé pour l'Euro 2016. C'est un des arguments de ce stade de foot, c'est d'être sur l'Euro 2016. Donc pour ça, il faut quand même un délai. En fait, c'est donner un délai. Le délai, en gros, il faut qu'ils aient bien attaqué à bétonner en juillet. Donc en fait, l'intérêt sur ce projet-là, c'est qu'en décalant de 6 mois... On devrait déjà mettre un gros coup parce que s'il est pas dispo pour l'Euro 2016, il y a quand même beaucoup de financiers qui se posent des questions là en ce moment. Il y a des de tous les côtés, donc il y a moyen de l'arrêter assez facilement. Il suffit de le retarder de 6 mois.
D'accord. Parce qu'effectivement, oui, on avait un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a effectivement des projets dans les boîtes. Enfin, le stade de Jarlan, il pourrait être réhabilité. Enfin, on pourrait. Sauf que c'est pas des.
Il y a même une étude qui a été faite. Il peut être passé à 55 000 places. Non 60 000, mais 55 000. Et du coup, 5 000 places, c'est ridicule. Mais en fait, c'est ce que disait Léonore tout à l'heure. Ça reste public et pas privé. Ouais. Et du coup, Lyon est coté en bourse, machin. C'est tout un toit. Hein. La galerie marchande qui veulent faire dedans et ils veulent que ça soit la plus belle d'Europe, que ça soit moi je pète plus haut que les autres et tout quoi. Enfin
la politique de l'UEFA aussi justement par rapport à ces projets là qui sont justement avantageux par rapport à ça, que justement vient de dire comme ils ont été retirés plus ou moins, je pense aussi par rapport aux places qui vont être augmentées aussi par rapport à Jarlan, parce que justement l'OL quand même va être aussi dans le championnat d'Europe de l'UEFA et ça fait que voilà, il y a aussi ce projet de grandir un grand stade avec 5000 personnes où justement ils veulent aussi ramener du monde aussi au milieu footballistique au niveau de l'UEFA quoi.
D'accord.
Voilà, il y a aussi ces projets.
Alors justement, je voudrais pousser un coup de gueule à ce propos, c'est que donc on nous a servi ce stade, etc., en nous disant sur la base du foot, c'est pour le foot, c'est pour le foot. C'est sûr que si le président de l'OL voulait vraiment que l'OL soit champion d'Europe, il agrandirait Jarlan, puisque les exemples sont très bien donnés dans toute l'Europe, avec de très 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 grands clubs, où justement lorsqu'on prend le stade du centre et qu'on le met à la campagne, les supporters désertent le stade, ça devient du foot spectateur. Et justement, l'équipe, au lieu de monter, eh bien, l'équipe descend simplement. Et ça, il faudrait bien qu'ils le disent. Quand on dit que ce projet est d'abord pour le foot, c'est totalement faux, hein, que nous soyons bien d'accord. C'est un projet pour on se fasse des millions d'euros, etc.
Et revendre des terres au nom de.
J'ai l'occasion, du coup, c'est pas souvent qu'on parle là. Moi, il y a quelque chose, je pense que c'est encore valable sur Lyon. Ça l'était en tout cas il y a 3 ans quand je travaillais dans le milieu des terrains de sport, puisque c'était mon domaine au départ. Je suis ingénieure agronome. Et donc, dans les terrains de sport à Lyon, en fait, ce qui se passe, c'est que Lyon a un très bon, en fait, est très en avance au niveau des espaces verts sur tout ce qui est développement durable. C'est-à-dire que à Lyon, on peut quand même se vanter que dans Lyon ne sont pas utilisés de pesticides, sont utilisés énormément de méthodes alternatives dans les tailles, voilà, énormément de choses, avec des gens très dynamiques qui ont quand même essayé de faire des choses dans le système, hein, on est bien d'accord, mais qui ont fait des choses. Et les terrains de sport n'en font pas partie ? La quinzaine de terrains de sport de. Alors, avec les cimetières aussi. Voilà. Alors, les terrains de sport passent complètement à travers ça et n'ont pas du tout une démarche écologique déjà actuellement telle que ça existe. Voilà. Je passais là, du coup, j'en profite pour le dire.
Il y a encore quelques années, je crois que c'était effectivement les espaces verts qui s'occupaient du stade à Jarlan et puis ça devait pas être bien, donc ça a été passé à une société privée.
En fait, surtout le souci, c'est pas tellement c'est qui gère. C'est-à-dire qu'au niveau de la commune, le service, déjà il y a 3 ans, c'est sûr, encore maintenant, je pense, les terrains de sport dépendent du service des sports.
Ouais.
Voilà. Donc c'est pas les mêmes ingénieurs qui gèrent simplement, qui sont à la tête, c'est pas les mêmes chefs. Et donc après effectivement c'est une société Parquet Sport qui gère l'entretien avec et qui a une politique qui est pas forcément de travailler sur de l'organique ou sur du bio quoi.
Ouais.
C'est clair que c'est pas dans leur politique actuelle.
J'ai cru comprendre que c'était donc déclaré d'utilité publique, mais qu'entre-temps, le projet avait été pas mal remis à la baisse et qu'au final, c'est appelé le grand stade, mais qu'en fait, il va pas y avoir beaucoup plus de places que le stade en plus actuel.
Non, mais les places vont augmenter. Comme
alors, toi, tu parles du prix des places.
Ouais, non, mais d'accord, les prix des places, parce que justement, c'est justement par rapport à la collaboration aussi de l'UEFA. Ces choses-là, par rapport à les supporters, bon, on parle aussi du stade, c'est ça aussi, c'est qu'il faut comprendre aussi que eux aussi, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils vont augmenter les places. Une place de l'UEFA, comme on l'a eu cette semaine, voilà, une place VIP, c'est quand même 3000 euros. Pour une personne, et une place à un côté central, c'est 1000 euros. Voilà. Voilà, c'est aussi des augmentations par rapport à ça, où justement, il faut prendre conscience que c'est pas pour le football, c'est pour payer encore des choses au niveau tout autour de tout ça qui ne sert tristement à rien, quoi. Parce que justement, par rapport à Jarlan, qui justement encore, en plus que là-bas, à Jarlan, ils ont encore d'autres commerces qui sont autour, et ben ça va être perdu aussi par des gens qui travaillent avec eux, quoi. Et c'est ça que justement les supporters de Gerland qui se disent non, on n'est pas d'accord, quoi. Parce que justement ils vont encore avoir un long trajet à faire. Déjà c'est déjà difficile par rapport au trajet de Gerland, à la fois la queue, à la fois les places. Et puis ben voilà, il faut leur faire comprendre que ben non aussi pour eux, s'ils veulent du football, du spectacle à la fois pas cher, ben qu'ils veulent, mais qu'à Gerland, mais pas au stade de Décines, parce que autrement, bah là, c'est pareil, ça va être casse-porte-monnaie, comme on dit. Voilà.
Et au niveau de l'utilité, à partir du moment où Gerland n'est jamais rempli, en fait, le prétexte de la Coupe du Monde, c'est seulement un prétexte, mais pour un truc exceptionnel. Donc, l'inutilité là-dedans, elle est flagrante, quoi. C'est complètement aberrant. Les sommes déboursées là pourraient servir à vraiment beaucoup d'autres choses.
C'est toute la plus-value immobilière. Voilà. C'est-à-dire que tout
on en revient à ce qu'il dit.
L'utilité publique a le double pouvoir de t'amener des financements et de d'exproprier des gens à 1 € du mètre carré. Et c'est juste, c'est terrible. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils nous servent la loi de la propriété à toutes les sauces. Ça, elle est renforcée, elle est protégée dans tous les sens, elle est jamais mise sur le banc de la sellette, hein. C'est-à-dire que quand c'est un squat, donc d'une occupation illégale, le procès, c'est jamais pour savoir si t'es légitime dans ce logement, mais pour savoir quand est-ce qu'on va te faire partir.
Sur le fond, mais voilà, on pose pas la question sur le fond, mais sur la forme, quoi.
Ça, ouais. La propriété n'est jamais remise en question. Par contre, quand c'est d'utilité publique, elle est même bafouée. C'est aujourd'hui Philippe Laya, ses terres, et même moi, je suis pas vraiment pour la propriété privée, mais lui, ça appartient à sa famille depuis 300 ans. Et en plus, 400 ans. C'est-à-dire que ça fait 400 ans qu'ils sont sur ses terres. Et aujourd'hui, ils vont lui mettre une route en diagonale dans dans sa prairie, dans l'assiette des moutons, là, elle est jolie et tout. Il va y avoir entre les habitants, mais ils ont tout investi dans leur vie, ils ont fait un crédit de 30 ans et tout ça pour payer plus cher une maison parce que elle donne dans le bois. Ouais. Et ben aujourd'hui, le bout de leur jardin à ce couple-là, avec des enfants, et ben il va y avoir une route. Ouais. Et en fait, la mairie, elle le savait déjà qu'il y avait à avoir ce projet, et ils ont rien dit. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre du peuple. Ce qui intéresse, c'est les capitaux. Ce qui intéresse, c'est faire plaisir aux copains constructeurs, se faire mousser la grappe par-ci ou par-mi. Ils ont tous le bras super long, que ça soit dans le bâtiment ou dans la politique. Mais ils se rient de nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, pour arrêter de les faire rire, il faut qu'on y soit en masse. Pour y être en masse, eh ben, il manque toi. Ou toi, ou toi, ou toi. Mais nous, on y est là, on y est un peu, mais on peut rien faire tout seul, on peut faire un peu.
Et pour en revenir aux surfaces qui prennent, je peux pas vous dire les chiffres précis, mais c'est donc un prétexte. Pour les endroits où il va y avoir les routes, ils ont pas pris seulement la surface de la route,
ils
ont
pris une emprise,
des dizaines, voilà, c'est ce que tu me disais, Thème.
21 mètres de large.
De chaque côté. Qu'on va refaire en soi-disant espace vert. Alors, on vient enlever du vert pour ensuite en refaire et le faire payer l'entretien aux gens. Donc, cet espace-là, c'est vraiment donc c'est une histoire d'arnaque, d'achat et de revente de terre. Et le foot est simplement un prétexte.
D'accord.
Je voudrais juste dire une chose parce que la grosse critique des opposants aux grands projets inutiles, c'est nous sommes des nimbistes. Et là, comme tu viens de parler des jardins, etc., je pense que c'est important de dire aux gens qui nous écoutent que la première chose, c'est que défendre son cadre de vie, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de citoyen et c'est quelque chose de citoyen vigilant. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que toutes ces enquêtes d'utilité publique, ou prétendues telles, sont faites sur la base de dossiers qui sont réalisés par les promoteurs eux-mêmes. Mais quand on pose la question, nous, on a posé la question, par exemple, dans l'enquête publique sur le Lyon-Turin. Est-ce que les cabinets d'études sont dépendants du maître d'ouvrage? Voilà la question posée devant la commission d'enquête et devant le maître d'ouvrage. La réponse, c'est les noms des cabinets d'études sont répertoriés dans le document E10. On n'a pas répondu à notre question. En fait, toutes ces enquêtes de soi-disant utilité publique sont déloyales. Elles sont déloyales parce qu'on ne dit pas aux gens, voilà, on vous donne des informations, mais ce sont les nôtres. Donc on vous dit ce qu'on veut. Et donc, il n'y a pas d'expertise indépendante sur tout ça. Et donc, cette notion d'utilité publique n'est en fait prise que sur la base des éléments des promoteurs eux-mêmes. Le deuxième point qu'il y a, c'est que on nous dit souvent, vous êtes des nimbistes. Moi, je regarde les commentaires sous les articles. On dit, ah, ben, ils sont contre Lyon-Turin, ou ils sont contre l'OL Land, ou ils sont contre Notre-Dame-des-Landes.
C'est pas chez moi, quoi.
Nimbistes, voilà, c'est pas de ça dans mon jardin.
Ce qui est bien, c'est qu'on se sent pas concerné. Ouais, mais occupant, oui, ben ouais.
Alors, je serais pas contre, mais plutôt pour la nature.
Voilà. Alors, donc, c'est la grosse insulte. Ouais, mais si ça passait pas chez eux, ils en voudraient. Alors, moi, d'ailleurs, j'ai eu un débat avec une députée qui est maire de Chambéry, et elle m'a dit, vous seriez plus crédible si vous n'habitiez pas sur le tracé. Et je lui ai dit, vous seriez plus crédible si vous habitiez sur le tracé.
Oui, c'était le projet.
Voilà. Mais surtout, ouais. Si vous voulez, la question qui est essentielle par rapport à cette question nimbiste, c'est quand on ouvre une enquête d'utilité publique, on ne l'ouvre que sur le tracé. Ben, si c'est de l'utilité publique, c'est une utilité publique nationale. On devrait avoir une consultation, un débat public. D'ailleurs, dans le Lyon-Turin, il n'y a jamais eu de débat public. Hein. Il y a eu des concertations entre nous, entre élus, pouf pouf. Tu veux de la subvention, bon, ben, faudrait que tu sois bien concerté.
Là, par exemple, pour Décines, on voit bien que ça concerne, parce qu'il y a qui ? Il y a le Grand Lyon qui va payer, il y a le département, enfin, effectivement, il faut élargir, il y a la région.
Juste pour le dire quand même, parce que c'est des problématiques que Carton Rouge retrouve. Carton Rouge est l'association citoyenne, et donc, évidemment, not in my backyard.
C'est toujours, toujours
le même. Je
le
pense aussi, et je leur dis aussi, et c'est très bien, et c'est pas grave. Arriver, ça leur permet de rentrer dans la résistance parce que justement c'est arrivé devant chez eux. Ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça.
Et puis la vigie a pour mission de réagir à ce qu'elle voit. Hein? Vigilant. La vigie, elle réagit à ce qu'elle voit et à ce qu'elle ressent. Voilà, donc on est un peu des capteurs, des palpeurs de problématiques, effectivement, qu'il peut y avoir. Et c'est dans tous les grands projets.
Après, on voit quand même que ça va loin, parce que si on aborde un peu, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'il y a bien des comités, il y a, je sais pas, 200 comités locaux, et c'est partout en France. Quoi.
Moi,
là, on peut pas dire.
Entre autres, quand j'ai appris les sommes astronomique que ça représentait, j'ai compris que c'était de l'argent public national, pas simplement des gens de Nantes. Et dans la rue, quand on parle de ça, tout le monde nous dit « Mais vous êtes de Nantes ?» Ben, je dis « Mais non, mais ça va changer l'architecture des routes et des échanges de ce qu'on va acheter tout ça au pays, au niveau national, pas seulement à Nantes. Quand on ramène un aéroport, ça change tout. Et l'argent aussi. Et ensuite, le fait que les déclarations d'utilité publique soient aussi totalement bidonnées dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est même scandaleux.
Et dans le cas de l'OL Land aussi.
Ça concerne tout le monde. Et voilà, c'est simplement à tous les citoyens de réagir à ça pour pointer du doigt ces scandales pour que les prochains projets, soi-disant d'utilité publique, le soient réellement. Voilà. Pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple, il y a eu un millier d'élus qui s'étaient unis, c'est le CEDPA, le comité d'élus doutant de la pertinence de l'aéroport, qui ont fait refinancer avec le bureau d'études Delft. Donc un vrai bureau d'études européen, tout ça, et leur ont demandé de reprendre le projet, d'analyser la déclaration qui avait été proposée. Et sans dire qu'eux, ils ont fait leur analyse et qu'ils ont trouvé d'autres choses, non, ils ont regardé l'analyse qu'il y avait eu, et ils ont vu que dedans, il y avait beaucoup d'erreurs.
Il y avait déjà des incohérences.
Des incohérences vraiment volontaires. Et depuis des années, le gouvernement refuse de répondre à ces remarques. Donc on parle de. C'est des élus, c'est des gens élus par le peuple. Ils financent eux-mêmes. Ils prouvent que la déclaration, elle est bidon et il n'y a aucune réponse du gouvernement. Par exemple, c'est une des premières actions qu'on a fait au comité dans le coin, de Lyon et d'Annonay. Là. On a fait un texte qu'on a envoyé à certains élus dans le coin, de parties de maire. Ils ont refusé de répondre à nos questions sur là-dessus. Et c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Les gens de la CIPA, les habitants de Nantes qui se battent depuis le début. Moi, j'ai pas entendu. Ils n'ont pas trouvé de réponse
là-bas aussi contre Notre-Dame-des-Landes.
Il y a beaucoup de députés qui se battent. D'accord. Mais voilà, on sait que c'est des déclarations d'utilité publique complètement truquées.
Ouais, on retrouve plein de paramètres communs.
D'où la désobéissance, l'occupation des terres et qui vient après, et que quand à la télé on vient dire c'est des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour squatter sans aucune raison. Mais non, il y a désobéissance justifié.
C'est génial. La loi n'est pas, la loi n'est pas respectée. De NIMBY, oui, et quand on vient loin, on nous accuse qu'on n'a rien à faire là. C'est génial.
La loi n'est pas respectée. Au mouvement italien, on nous a dit que c'était un mouvement Black Bloc qui venait de l'étranger, etc. Le mouvement Notav en Italie. Nous étions le samedi 23 mars, 80 000 dans la rue. 80 000. Ils ont aujourd'hui 200 députés et sénateurs Notav. Donc aujourd'hui, tout ça est effectivement une caricature de discours et une caricature de discours qui est toujours la même dans tous les dossiers. C'est-à-dire que soit on essaye de vous faire prendre des positions qui ne sont que des positions d'intérêt local, parce que toute l'enquête publique est orientée là-dessus, alors qu'en fait c'est une enquête d'utilité publique. Donc il faut se baser sur l'utilité publique. Et il y a une déclaration, une charte qui a été signée entre tous les mouvements, qu'ils soient allemands, qu'ils soient marocains, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, qu'ils soient anglais, au Forum Social Mondial qui s'est déroulé la semaine dernière. Et dans les conclusions, je vous le lis en deux mots, parce que vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très général. Nous affirmons que les solutions sont à chercher dans l'entretien et l'optimisation des infrastructures existantes, qui sont dans la plupart des cas une solution alternative avec moins de nuisances et de coûts, la construction de nouvelles infrastructures ne devant répondre qu'à l'impératif de l'utilité publique et non du profit. La restitution de la capacité de décision aux populations directement concernées, fondement d'une authentique démocratie et autonomie locale face à un modèle de développement imposé au moyens de propositions législatives adaptées, de nouvelles relations entre les peuples du Sud comme au Nord, des relations de solidarité qui rompent définitivement avec la logique de domination et d'impérialisme. On est clairement dans une logique contre des grands projets inutiles et imposés qui n'ont qu'un objectif aujourd'hui, masquer des effets de chômage, masquer des problématiques économiques qui ne sont créées d'ailleurs que par les grands projets inutiles et imposés, à telle enseigne qu'aujourd'hui ces projets vont être financés sur le marché boursier et qu'il faut être bien conscient que le financement de ces projets dans les 10 années à venir, c'est la nouvelle crise de la nouvelle bulle boursière, c'est-à-dire qu'on va revenir avec le financement de ces grands projets inutiles et imposés sur une nouvelle crise des subprimes qui sera la crise des project bonds, parce qu'il n'y aura aucune utilité publique dans tout ça, il n'y aura que du déficit futur.
Je pense qu'on est vraiment dans une... On ne peut plus ignorer actuellement le fait qu'on doit, que le problème est globalisé, en fait. Et vraiment, on est invité par Attac, là, aujourd'hui, c'est pas pour rien, mais réellement, je pense qu'il y a un moment où on ne pourra plus essayer de parler aux gens simplement en leur parlant d'un petit problème à la fois, quoi. Il y a un moment où les grands projets inutiles, ça fait appel aux problèmes qu'on fonce dans le mur au niveau monétaire, ça fait appel qu'on fonce dans le mur au niveau environnemental avec cette histoire.
Ce que tu disais pour les terres alimentaires.
Voilà, ouais. Qui disparaît sous le béton tous les 7 ans. On me disait 80 ou 90% de toutes les denrées de base, riz, céréales, sont tenues par 4 grosses entreprises. Il y a un moment, on ne va plus seulement nous tenir par le porte-monnaie, on va nous tenir par l'alimentaire. Et ça, c'est hyper important, vraiment, quoi. Je pense qu'on a besoin de regarder globalement. Les prisons, combien? 70-80% de la population carcérale d'origine maghrébine? Quelque chose comme ça, on n'a même pas réussi du niveau social. Je veux dire, c'est la catastrophe dans n'importe quel coin où on regarde. Et voilà. Et c'est pour ça que nous, sur l'appel, on appelle carrément à la révolution. Voilà. Parce qu'il faut d'abord le rêver de quelque chose, parce que sinon, c'est pas gagné. Et du coup, je comprends, parce que ça va bientôt finir et tout. Alors, du coup, sur les. Donc, du 10 au 30. Le 10, un an d'occupation. Le 30, on est expulsable. Le 12, 13, 14, donc le premier week-end, on fait Semtazad, donc on reprend l'appel de Notre-Dame-des-Landes, qui appelle à Semtazad. Donc venez avec vos graines, vos outils, on va faire de la permaculture, on va faire des ateliers dans tous les sens, voilà, ça va être du jardinage militant et résistant. Le deuxième week-end, le week-end du 20 avril, c'est sur le thème des anarchivistes, voilà, c'est tous les thèmes de l'art et comment mettre l'art voilà, au service du clown-activisme, par exemple. Comment l'art engagé en fait en général. Et le troisième week-end, c'est sur le thème Vinci dégage apéro bulldozer. Pour ceux que ça inspire le plus.
Ça résonne dans les oreilles de certains. Là.
Ouais, ça résonne ça. En principe, Vinci dégage apéro bulldozer.
Je crois qu'il y a une association qui a fait quelque chose sur où justement c'était des clowns qui expliquaient. J'ai vu ça, je sais plus dans quel magazine, sur comment tu cultives une tomate dans la, enfin, en productivisme et en permaculture. Enfin, et puis apparemment, ça interpellait vachement les gens.
Parce que c'était un spectacle, c'est un spectacle ouais, de clown, quoi. Je crois que c'était sur Lyon, ouais. Je pourrais jouer en recherche. Ouais. Et sur.
Bah, du côté du comité de Notre-Dame-des-Landes, donc, il se passe des choses à Notre-Dame ces derniers temps. Il y a les deux gros lieux, donc la Châtaigne, Bellevue, qui ont été déclarés expulsables il n'y a pas longtemps. Là, aujourd'hui, il y a une info qui disait que ça repoussait encore de quelques jours par une petite magouille. Mais en gros, voilà, ils sont de nouveau expulsables. Donc. Faut se tenir.
Parce que là, c'est pareil. Du coup, on n'en a pas trop parlé. C'est pareil, les bulldozers ont commencé ou du coup, c'est un petit peu figé? Est-ce que tu.
Il y a des travaux qui commencent très éloignés pour faire des routes qui vont arriver au projet, mais enfin, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros appel aussi le 11 mai. C'est la chaîne humaine à Notre-Dame-des-Landes. Et que, du coup, il y a. Donc tous les comités qui se sont faits partout en France, qui essayent de repréparer des cars pour aller là-bas. Donc entre autres, si vous êtes dans le coin de Lyon, Vienne, tout ça, ouais. Voilà, vous pouvez prendre contact et il y a des cars qui sont en train de s'organiser là. Donc voilà, prenez contact et puis
vous pouvez aller
participer.
Ouais, ça va être ramène ta pomme en même temps.
Voilà,
ouais.
Pour ce qui est,
ils appellent pour cette chaîne humaine à replanter des pommiers. Donc en fait, on a juste besoin la prochaine pomme que tu manges, tu gardes
les graines.
Et du coup, il faut les mettre au congélo pour d'accord. qu'ils aient un semblant d'hiver pour qu'ils puissent
germer.
Voilà. C'est important, la prochaine pomme que vous mangez, mettez les graines au frigo, c'est pour envoyer à Notre-Dame-des-Landes. Si vous pouvez pas y aller, c'est pas grave.
Et vous pouvez le faire aussi le 13.
C'est grave parce qu'il faut être 60 000, il faut pas être 40 000 comme le 17
oui,
octobre.
Il
faut
qu'on soit 60 000. Quand même, parce que la graine, vraiment, 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 c'est une information importante. La biodiversité se perd et sauvons les semences, quoi. C'est vraiment très important.
Des vieilles variétés de pommes, on va manger.
Pas forcément, en fait, même les nouvelles.
La nature saura faire.
Voilà, et elle va se refaire toute seule en fait.
Alors c'est même pas 60 000 dont il s'agit, mais bien 100 000, puisqu'on a calculé pour faire le tour de la ZAD, il faudra que le 11 mai nous soyons 100 000. Voilà, en se tenant la main et tout, bah, ça devrait y aller. Voilà,
oui, simplement.
Motivé. Et voilà, sinon du côté de Lyon, donc voilà, il existe donc un comité. Il y a un site internet, c'est RhoneNDDL.
Ouais, donc, il nous reste 2-3 minutes, donc on va vous demander voilà les coordonnées à chaque fois si vous pouvez redire. Vas-y, donc vas-y. Ouais. Ouais.
Donc le comité Lyon soutient Notre-Dame-des-Landes, c'est RhoneNDDL.wordpress.com. Voilà, il y a contact mail et tout ça. Il faut savoir qu'il y a des comités vraiment de partout autour de Lyon, à chaque petite ville, quoi.
Vas-y, si tu peux mettre les coordonnées, pareil, on les mettra sur le blog aussi, mais vas-y, si
d'accord.
tu peux les redonner.
Nous, c'est dessinetarésistance.weebly.com. Vous tapez dessinetarésistance sur Google et vous allez tomber dessus. Dessinetarésistance.weebly.com. Et comme ça, vous pouvez aussi joindre le comité de soutien à Notre-Dame-des-Landes. On est de toute façon, on est ensemble, quoi. Et puis, un numéro de téléphone 06 52 49 52 29. Voilà, si vous avez besoin de prendre contact, on n'est pas comme ça.
Merci.
On tient encore la bonne vieille méthode du téléphone.
Alors, de plus, c'est très très simple pour nous rejoindre, puisqu'il suffit de montrer dans le métro A, de monter, ça sera encore mieux. On va directement à Volassois, c'est le terminus du métro A. On monte dans le bus 16, dessine église. À bien retenir dessine église, puisque c'est le point de départ pour arriver au chemin du Biaisin. On peut aussi le rejoindre par le tram 3, en descendant à dessine centre. On sort à droite, toujours tout droit, on arrive à dessine église exactement. Là, on longe l'église dans la rue Antoine Lumière. Un petit crochet nous amène dans le chemin du Biaisin, toujours tout droit, et on arrive au-dessus sur la butte. Bienvenue à toutes et tous. Les amoureux de la ville et les amoureux du théâtre de rue, de tout ce qui fait qu'on vibre, les clowns, les potagers, les constructeurs, enfin absolument tout. Donc on rappelle l'anniversaire du 10 avril et l'expulsion
des opposants au Lyon-Turin. Excuse-moi, mais sinon, voilà, vous tapez dans Google coordination des opposants au Lyon-Turin. Sinon, si vous tapez notable, vous trouverez aussi tous les comités.
Venez nous voir, on vous renverra aussi, voilà. Vous inquiétez pas. Mais,